Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pino et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Dalia. Réalisation Thomas Beau. Ce jeudi soir donc, dispute exceptionnellement consacrée au cinéma, puisque demain, je viens de le dire, sera littérature en direct du Salon Livre Paris. Cinéma ce jour avec Lucille Como, Corinne Rondeau et Antoine Guillot pour parler ensemble de Duel au soleil de King Vidor et Otto Brauer en coffret DVD et Blu-ray Ultra Collector chez Carlotta. La Belle et la Belle de Sophie Filière et Chien de Samuel Benchetrit. Boris Pino est également avec nous, surveillant les fils à Twitter et Facebook pour bien entendre vos commentaires. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour la rétrospective Wim Wenders. 6 films en version restaurée actuellement sur les écrans. Nous ouvrons cette dispute avec une nouvelle sortie chez Carlotta, dans cette collection Ultra Collector qui réjouit les cinéphiles. Le film qui entre dans cette belle collection est Duel au soleil, King Vidor et Otto Brauer, un film sorti en 1946, écrit et produit par David O. Selznick avec Jennifer Jones, Gregory Peck, Joseph Cotten, Lionel Barrymore dans les principaux rôles. Comme d'habitude dans cette collection, le film est proposé en DVD et Blu-ray haute définition, accompagné par un livre de 200 pages ici, signé Pierre Berthomieux, qui revient sur la genèse, évidemment jamais simple avec Selznick, genèse compliquée de ce film.
The studio that made Gone with the Wind brings you Duel in the Sun, a spectacular adventurous love story of the Old West with one of the greatest casts in motion picture history, headed by Jennifer Jones, Joseph Cotten, Gregory Peck. Duel in the Sun, the unparalleled thrill-packed spectacle that was 2 years in the making, photographed in magnificent Technicolor. Duel in the Sun, with Lionel Barrymore, Herbert Marshall, Lillian Gish, Waller Houston, Charles Bickford.
Bon, comme on imagine, ce n'est pas une sortie de la semaine, mais une sortie par contre chez Carlotta pour ce duel au soleil. Par quoi commencer, Corinne Rondeau ?
Par le début. Par un long film. C'est un très long film, enfin, je ne l'avais jamais vu.
Ah oui ?
Oui, ouais, vraiment, parce que je n'avais aucun souvenir. Pourtant, j'ai vu beaucoup de westerns. J'ai commencé à regarder à la télévision les westerns de mon grand-père.
Ah oui.
Non. Non, le film est très étonnant d'ailleurs, parce qu'il y a une dizaine de minutes, d'ailleurs, il commence par un prélude musical qui dure sur la... Le film finira là-dessus aussi, sur cette roche de tête de Sco, là où va se jouer le duel au soleil, justement. Et effectivement, la musique qu'on entend va être tout le long du film avec toutes ces thématiques, notamment le plus sensuel qui relève sans doute du personnage de Gregory Peck, Lute, qui est le machiste absolu. Je pensais, en regardant le début du film, que s'il était tourné aujourd'hui, je pense qu'il y aurait des associations de féministes et autres qui interdiraient, je pense, le film, carrément sa sortie, et non pas que des coupes. Et on est très étonnés d'ailleurs, parce que
beaucoup déjà de coupes, hein, quand même.
Oui, mais d'ailleurs, le film était constamment avec la censure derrière elle pour savoir ce qui était autorisé. Donc, à l'époque, il y a des scènes, notamment Jennifer
Jones
est à quatre pattes en train de nettoyer le sol et il y a la caméra derrière elle. Donc, c'est d'une violence pour notre époque incroyable et la censure, apparemment, elle était en accord avec ça. Donc, la censure.
Le code Hays, c'était assez compliqué en fait, mais on pouvait arriver quand même à faire des détours, la preuve.
Ouais. Et donc ce film est assez génial, je trouve, dans sa tragédie, parce que c'est vraiment, on le dit, enfin c'est pas moi qui le lis, mais c'est vraiment une tragédie à la grecque. Et tout ce qui se joue à l'intérieur des drames successifs, relève en fait du toujours, c'est toujours trop tard. Voilà. Puisque le film commence par cette jeune métisse, donc indienne, elle a du sang indien dans la peau, et son papa, là, qui je ne me rappelle plus par qui il est joué, va tuer sa femme, puisqu'en fait, elle le trompe. Et on est déjà dans le début, je dirais, de la tragédie, puisqu'en fait, on emporte avec soi une histoire de fin et de non-recevoir là-dessus. Et tout le film se structure à l'intérieur de cette situation, puisque le nœud vraiment des personnages, c'est Gregory Peck et Jennifer
Jones.
Cet amour impossible, cette passion plutôt, où en fait il y a quelque chose de la servitude, il y a quelque chose de la dénégation aussi de l'amour de l'un pour l'autre, et qui conduit justement au duel. Et je trouve que vraiment ces rapports-là sont d'une très très grande force. Ils sont filmés avec beaucoup de physique, ce qu'on peut pas imaginer. Enfin, moi j'ai trouvé que c'est les rapports quand il l'embrasse, il la force, elle lui tire vraiment les cheveux. Et tout le film est comme ça. Et je trouve qu'il y a vraiment cette histoire qui va se tisser autour de leur relation est en fait une sorte de presque de psychanalyse, puisque tous les personnages, cette jalousie qu'on va voir chez Lute va ressurgir dans une histoire de son père et de sa propre mère, qui est jouée par Liane Gish, l'égérie de Griffiths du cinéma muet, qui est absolument formidable dans le film. Et donc on voit que se rejoue comme une tragédie grecque ces éléments d'histoire qui mettent les gens face à leur propre destinée et qui sont conduits jusqu'au bout. Et puis effectivement il y a un traitement de l'image incroyable avec les contrastes, les ombres, les contre-jours, mais aussi ces écrans c'est panoramique, enfin ces plans généraux rouges, enfin l'image crame littéralement. Il y a une intensité de la couleur, y compris si on voit beaucoup de paysages qui sont peints. Ouais. Mais le film a le diptyque de Autant en emporte le vent, mais sur un autre mode. Mais c'est la femme qui est vraiment au cœur de ces deux films, je veux dire. Et là, c'est une femme au cœur d'un espace qui n'est peuplé que d'hommes. Il n'y a que des hommes, et ces hommes-là.
Lui dit Liane Gish, vous allez être la seule jeune fille. Ouais. Dans cet univers. Ouais. Ouais,
Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne va pas vers eux. Ils vont vers elle.
Eux, parce que vous avez, pour ajouter la tragédie grecque, il y a un frère. Ouais. Hein, le frère de Youth, c'est Jesse, c'est Joseph Cotten, qui n'est pas non plus n'importe quel acteur, qui a aussi, d'ailleurs, qui avait précédemment joué dans un autre film avec Jennifer Jones, qu'il retrouvera aussi. Antoine Guillot, allez, pour poursuivre. Par quel bout attraper ce duel au soleil?
Le début est intéressant, effectivement, ce très long prologue, parce qu'il est complètement irréaliste, c'est-à-dire qu'il affiche tout de suite qu'on n'est pas dans l'univers du réalisme, on est à la fois dans l'univers de la toile peinte, et il y en aura beaucoup dans le film, c'est Matte Painting qui redessine le décor. On est aussi dans quelque chose de très excessif, c'est-à-dire qu'il y a cette voix off un peu pontifiante d'Orson Welles, montrant qu'on est dans le grand, dans quelque chose de très important. Il y a tout de suite aussi des précautions avec ce petit carton qui explique que le personnage de chasseur de péché qu'il y a dans le film n'est surtout pas un vrai pasteur, et que donc s'il est un peu excessif, voire carrément lubrique lui aussi par moment, il ne faut pas y voir du tout une attaque contre la religion. Donc effectivement, on va essayer de se prémunir d'un certain nombre de choses, et puis après avoir attendu...
Il n'y a pas de carton pour le rôle de la domestique noire, par contre. Mais bon, ça fait partie des choses qu'on voit aujourd'hui avec un...
Alors qu'on voit de manière, mais qui est plus... Là encore, il faut se replacer aussi dans l'époque. C'était une comédienne qu'on avait déjà vue dans Autant en emporte le vent, où elle avait un peu le même rôle avec cette voix très haut perché. Donc effectivement, le rôle de la domestique noire, dont on sent que c'est une ancienne esclave affranchie, que le personnage de Liliane Gish...
à peine affranchie, parce que je vois pas avec qui je pourrais l'échanger.
Mais que le personnage de Liliane Gish a amené avec elle depuis depuis Autant en emporte le vent. Là aussi, parce qu'elle sort vraiment d'Autant en emporte le vent, Liliane Gish, et qui est censée être un personnage comique, dont le comique est pour le moins embarrassant aujourd'hui quand on le voit. Mais c'est pas la seule chose qui peut être embarrassante, parce que quand je disais que le film pose les bases, il pose les bases de l'excès en tout, c'est-à-dire l'excès des couleurs. On est dans et avec ce goût du crépuscule que Selznick avait dans tous ses films. Il aimait bien le crépuscule parce que c'était beau, et puis parce que c'était un moment de bascule.
C'est du théâtre d'ombre, etc. Souvent chez lui.
Et puis après, on a cette première séquence où on détaille donc ce rocher de Squaw qui lui est peint, et où on va passer. On a l'impression presque d'être dans un dessin animé par moment, jusqu'à cette fleur et ce fondu enchaîné sur la première apparition de Jennifer Jones dans le film, qui elle-même a un jeu Mais quand on voit les autres films de Jennifer Jones, c'est pas son style de jeu habituel. Donc c'est vraiment elle ce qui lui a été.
Elle ne surjoue pas toujours comme
c'est
ça.
C'est ce qui lui a été demandé par King Vidor et sans doute Selznick derrière qui supervisait tout. C'est voilà cet excès en tout. C'est-à-dire que c'est le film outrageous, c'est le film scandaleux et de l'excès en permanence. Donc on va avoir des péripéties sans arrêt, des séquences. Quand il y a une séquence de cavalcade, ils sont 1000. Quand en face, les ouvriers qui amènent le train sont 1000 eux aussi. Donc on les
et la cavalerie, ils sont 1000 aussi.
C'est extraordinaire. La toute première séquence qui a été rajoutée après le tournage, donc après le départ de King Vidor et qui a été tournée par William Dieterle, parce que vous avez cité tout à l'heure Otto Brauer, qui est un des réalisateurs de seconde équipe.
William
Dieterle a fait beaucoup.
Non, mais dans le canon officiel, deux noms-là.
Voilà, tout à fait. Mais bon, King Vidor a insisté pour l'avoir, pour le signer tout seul. Il a eu la guilde des réalisateurs avec lui, etc. Mais c'est vrai que Dieterle apporte beaucoup. Et même Sternberg, qui arrive, qui tourne juste quelques scènes, on peut retrouver par moments.
Lesquelles.
Et c'est tout l'intérêt du film du livre de Berthomieux, c'est qu'il a vraiment comparé non seulement toutes les versions du scénario, mais toutes les séquences et peut nous montrer telle scène, ça va de là. Et c'est ça qui me passionne le plus dans ce film, c'est que c'est un film monstrueux, non seulement par l'ampleur qu'il a, mais parce que c'est comme une chimère, c'est-à-dire comme ces animaux qui ont une tête de coq, des pattes de lion, une queue de serpent, etc., mais qui donne un tout cohérent. Et le tout cohérent vient de Selznick. C'est-à-dire que quand Selznick monte, notamment dans la scène hyper connue de la fin du duel au soleil, parce qu'on l'attend longtemps, ce duel...
2h20, 2h15.
Au soleil, il peut prendre... plan par plan, des sources complètement hétérodoxes, tournées en extérieur, en studio, par trois réalisateurs différents, et donner une montée comme ça de la passion morbide vers la mort qui a un tout, voilà. Donc c'est quelque chose qui est très passionnant et qui remet complètement en question, pour une fois, mais comme souvent dans les productions Selznick, la notion d'auteur au cinéma.
L'auteur, c'est Selznick. On ne l'aurait pas compris. Lucille Comeau, Duel au soleil.
Oui, le livret est absolument passionnant sur cette question-là. Moi, je connaissais le film, je l'avais vu, je pense, en vieille cassette vidéo. Donc là, c'est totalement différent comme expérience, et notamment pour voir cette actrice Jennifer Jones, qui est en effet au centre du film, dans tous les excès qu'elle incarne, dans la manière de jouer. Moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'il y a une charge, il y a une violence dont vous parliez tous les deux, qui est frappante, qui est aussi la violence du western, une violence qui s'applique à la fois au niveau de la terre, de cette fameuse terre de Spanish Beat, où évoluent tous ces personnage qui est donc menacé, entre guillemets, du moins du point de vue du père, par l'arrivée du train. Il y a la violence qui s'exerce au niveau de la famille, et là c'est ce dont vous parliez, Corinne, qui est une violence quasi de l'ordre de l'antique, et qui menace toutes les relations homme-femme, frère-frère, frère-sœur, etc. Et puis il y a la violence au niveau du personnage de Pearl, qui est une violence qui se retourne contre elle. Moi, j'ai été assez surprise de lire, en fait c'est l'adaptation d'un roman au départ, qui apparemment est un roman encore plus foisonnant que ne l'est le film. Notamment sur les origines multiples et métissées du personnage de Pearl. Et le roman avait été plutôt perçu comme un roman féministe, entre guillemets, enfin l'auteur du livret prend des précautions, mais en tout cas voilà, comme étant potentiellement quelque chose qui traite de l'émancipation féminine. Or le film, bon, quand on voit le film, on a un petit peu du mal à envisager ça, notamment parce que moi ça m'a beaucoup fait penser au roman... au roman naturaliste de la fin du 19e, qui est d'ailleurs l'époque où se situe l'action, où la femme est en permanence déterminée à la fois par son milieu, donc là c'est le père et la mère, très clairement le départ, enfin le prologue installe ça, et aussi par son rapport à la nature, son rapport à l'instinct. Là, Jennifer Jones, elle est sans cesse mise en parallèle des chevaux que dresse notamment le personnage interprété par
Grégory Peck.
Voilà, Grégory Peck, et jusqu'à cette scène finale, juste avant le fameux au soleil, où elle boit comme sa monture à plat ventre, à même l'eau sur le sol. Et il y a un côté dressage d'une femme, en fait. C'est ça que ça raconte aussi. C'est le dressage tragique d'une femme dans le cadre du genre western. C'est difficile à regarder, moi, je trouve. Et c'est d'autant plus difficile à regarder que, et ça rejoint la question de toute la charge érotique du film, je trouve que les personnages masculins s'en sortent très bien. Grégory Peck, aujourd'hui, quand on le regarde, il a toujours cette charge érotique qui est vraiment puissante. Je pense que tout le monde peut voir en tant que spectateur. Alors que Jennifer Jones, dans cette espèce d'outrance qu'on lui... Voilà, qu'on l'a...
Antoine Billon n'a pas l'air d'accord avec vous.
Moi, je trouve que c'est difficile à regarder comme jeu. Et en tout cas, c'est tellement artificiel qu'on perd, je pense, quelque chose de la charge érotique. Et pour le coup, la qualité du Blu-ray peut-être n'aide pas, parce que son maquillage paraît tellement outrancier. Elle est extrêmement maquillée. Elle a la peau brunie pour figurer le métissage, en fait. Et c'est un petit peu dur à regarder, moi, je trouve.
Oui, parce que peut-être que la vraie chimère, c'est elle. Moi, je... Alors, si Antoine Guillaume n'est pas d'accord avec vous, moi, je vous rejoins plutôt sur le... la difficulté quand même de, d'être saisi par cette charge érotique du personnage féminin, alors que Grégory Peck est absolument irrésistible, comme toujours, mais enfin, ça c'est... Il y a des camps hein, chez les cinéphiles, il y a les pros Grégory Peck, les autres, moi je suis dans les pros, il n'y a pas de doute. Moi j'avais vu le film, je pense, il y a au moins 35 ans, et je ne me souvenais que de, du duel au soleil, que de cette scène finale, mais effectivement, il faut l'attendre, et en attendant, il se passe quand même énormément de choses, et c'est vraiment, c'est là qu'on voit que oui, l'auteur c'est Selznick, parce que vraiment quasiment il y a des plans qui pourraient être, pour le coup, je sais pas si Berthaud mieux le dit, récupéré de fan footage d'Autant en emporte le vent, mais enfin quasiment quoi, enfin on a effectivement les mêmes gammes chromatiques, mais qui me semble là encore plus poussé, notamment presque à la fin du film, quand le vieux sénateur, le vieux père se retrouve avec le shérif du coin. Ils sont vraiment, on n'est plus du tout dans le réel, on est dans une sorte de plasma rouge. C'est très étrange, et c'est un moment aussi qui est un moment de, on va dire, d'une approche de la lucidité du vieil homme au bord de mourir. Alors c'est quand même quelque chose de très, très émouvant, ai-je trouvé, mais le fait est que la dimension violente de la sexualité, puisque c'est quand même de ça qu'il s'agit, comme j'aimerais redevenir pur, dit votre amie Jennifer Jones, mais elle ne l'est plus. C'est un des drames qui se joue là. Et puis toute cette dimension, quasi grecque, de la malédiction qui se transmet d'une génération à une autre, et on va pas tout divulgâcher, même si quand même j'espère beaucoup de gens ont vu ce film. Le but de l'émission de Si c'est ce soir, c'est de leur donner envie de voir. C'est que, on va dire que la dernière scène de Lillian Gish, pour ne pas en dire plus, est quand même aussi tout à fait stupéfiante. Et bon, Lionel Barrymore, on l'a pas cité ici dans notre discussion, mais j'en reparle encore. C'est quand même c'est un monument du cinéma, et il est tout à fait monumental dans ce film, le patriarche. Antoine Guillaume.
C'est ça, une des choses qui sont très émouvantes dans ce film, c'est que sont vraiment un moment de charnière. Enfin, c'est un film qui à la fois condense le classicisme hollywoodien jusqu'à sa folie. Et pour le coup, je trouve que le Blu-ray donne les couleurs qui ont été. Et ce sont ces couleurs qui ont choqué les ligues de vertu, Legion of Decency. C'est-à-dire qu'il avait passé tout le code AIDS, etc. Tout était bon, mais il s'est pris des attaques après parce qu'on lui disait, mais en fait, c'est pas possible, mais il y a une sexualité dedans qu'on n'arrive même pas à expliquer, ça doit être les couleurs. Et effectivement, ce sont ces couleurs extrêmement flamboyantes qui donnent ce sentiment-là de vie, de choses qui dépassent les personnages en permanence, qui les font agir selon leurs désirs, mais contre leurs intérêts en permanence. Et puis, il y a ce moment aussi qui à la fois annonce ce qui va arriver après, c'est-à-dire que ça s'arrête là, le western, parce que c'est un faux western, évidemment, enfin, c'est presque un western épuré, c'est ça qui est très, très troublant. Et tous les signes distinctifs du western sont évacués, et en fait, on est aussi bien dans un film noir comme on en faisait à l'époque, on est dans une tragédie grec, vous l'avez dit, puis on est dans le grand film opératique dont le successeur, ça sera Coppola après, c'est-à-dire que quand il fait effectivement Coup de cœur, par exemple, ou avec Storaro, ils reprennent ces couleurs extrêmement saturées, il y a évidemment une filiation qui vient de là, mais on n'oublie pas le muet, et y compris dans les premières séquences, la première séquence, celle qui est filmée par Dieter Lohr, justement la scène au Mexique avec la danse, on a une scène de meurtre de la mère par le père extrêmement expressionniste, on a toute cette grammaire du muet qui est encore là, on a Lillian Gish et Lionel Barrymore en citation directe de Griffith et de toute l'histoire du muet. Donc on a une sorte de film total qui à la fois condense et annonce sa fin. Enfin, c'est un film vraiment monstrueux, quoi.
Corinne Rondeau.
Oui, c'est vraiment un film qui est lui-même à la fin. Je veux dire, autant tous les personnages sont à la fin, je veux dire, ce qu'ils font sont des actes irrémédiables. Voilà. Et là-dessus, le film est comme ça. C'est-à-dire que le maximum d'effets baroques, le maximum de quantité même d'individus parfois dans les plans, l'étendue gigantesque de ces paysages du sud des États-Unis qui renvoie...
Au début, hein, c'est quoi, 500 000 hectares, c'est bien ça? J'ai sans mémoire. Le domaine.
C'est un empire qui va vers sa fin.
Ouais, et donc le film, effectivement, ne relève plus. Quand moi je le regardais, je me disais, mais ce n'est pas un western. C'est pas un western. Ça se passe dans un espace où il y a des chevaux, avec des gens qui les dressent, avec des... Voilà,
des chapeaux,
du bétail,
des éperons.
Et puis c'est aussi, et le film le révèle dans cette séquence de montage alterné incroyable entre justement tous ceux qui travaillent au ranch et qui vont se retrouver à la frontière d'un espace, mais aussi d'une époque, c'est-à-dire le sudisme, la fin de l'aristocratie sudiste et ce chemin de fer qui arrive. Et donc cette machine, la locomotive qui arrive en même temps que
les
cavaliers arrivent, une espèce de
cheval de fer.
On attend le choc, si vous voulez, ce choc va se jouer sur une décision politique qui est antérieure à leur rencontre, qui est le drapeau américain, puisque Donald Barrymore va dire je me suis battu pour ce drapeau, je ne peux pas maintenant tirer dessus. Et là, d'un
c'est ambigu d'ailleurs, parce qu'il y a deux drapeaux.
Oui.
Le drapeau américain et le drapeau du Texas.
Ouais.
Et on ne sait pas exactement duquel il
parle. Le discours, c'est ça quand même, même si l'image
même si une ambiguïté.
Nous donne... Oui, de toute façon, on ne fait pas cette histoire ailleurs que dans le sud des États-Unis, parce que ça, c'est improbable, mais c'est justement le lieu pour ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment le film qui relève de sa propre décadence, mais avec un faste inouï, quoi. Ouais. Et donc là, moi, je trouve que c'est chapeau, parce que on peut être dans un fétichisme de l'image, parce que c'est évidemment le producteur qui fait le film, mais là-dessus, il y a une grande éloquence de la fin d'un certain régime de genre, mais aussi une fin de ce que peut être le monde de demain. Et ce film ne dit rien du monde de demain. Et la scène de fin, et moi j'en ai fait des rêves. Hein. J'ai rêvé. C'est vraiment le moment où. j'ai rêvé d'une sorte d'impasse.
Remplacer, retrouver les mots que Corinne Rondeau n'a pas dit.
Je peux pas le dire, parce que ceux qui l'ont pas vu, je veux dire, ils vont voir quand même un summum. C'est une scène d'anthologie.
C'est un sommet, c'est le cas de le dire.
Ouais,
alors pour le coup, pour Lucille Como.
Oui, parce qu'en fait, le film est saturé aussi de signes. On parlait des drapeaux. Enfin, il faut quand même préciser aussi que dans ce fameux domaine du patriarche, tout est marqué au sceau de Spanish Beat. Les vaches, comme les hommes,
comme les
bottes, comme les diligences qui rentrent et qui sortent.
Et les fils.
Et les fils. Bon, est-ce qu'on vous a donné envie de voir Duel au soleil? J'espère bien. Ce film co-signé par tant de réalisateurs que la liste est trop longue pour la citer ici. Coffret DVD Blu-ray Ultra Collector chez Garlotta, donc avec ce livre signé Pierre Berthomieux. Puis quelques bonus. On voit que les enfants de Grégory Peck prétendent que leur père était déçu par ce film qui n'avait pas réussi à atteindre l'ambition qui était la sienne. Bon,
puisque vous parliez des pro-Peck et des anti-Peck, moi qui n'aime pas beaucoup Peck, je trouve que c'est son meilleur rôle et je le trouve formidable dedans.
Bon.
Je le préfère chez Hitchcock.
Ah bon, on se disputera une autre fois là-dessus. À suivre dans la dispute, La Belle et la Belle et Chien.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Alors, j'aime beaucoup Sophie Filière, voilà, je le dis tout de suite comme ça, notamment parce qu'elle est la sœur d'Hélène Filière et la mère d'Agathe Bonitzer, mais surtout parce qu'elle trace un chemin bien singulier dans le cinéma français depuis quand même bientôt 25 ans. Premier long métrage, 94, c'est Grande Petite. Il n'y a eu que 4 films depuis, La Belle et la Belle venant s'ajouter à cette courte liste. Belle et la Belle que je n'ai pas encore pu voir, mais je crois que je vais vous écouter en confiance, quoi que vous disiez, car j'irai en cette fin de semaine. Dans le film, je sais que Margot, 20 ans, interprétée par Agathe Bonitzer, fait la connaissance de Margot, 45 ans, interprétée par Sandrine Kiberlin, et qu'elle se ressemble beaucoup. La bande-annonce m'en a trop dit, et pour cause.
Vous montez pour le salon de l'agriculture ?
Pardon ?
Vous allez au salon de l'agriculture ?
Non.
Non, parce que moi, oui. Alors, je me disais...
Ah oui, mais moi non. Oui, je suis la 320, excusez-moi, je me demandais pourquoi il n'y a pas de mini-trucs dans le mini-bar.
Des mini-trucs ?
Oui, non, 2 étoiles, quoi.
Je ne vous paye pas pour textoter à longueur de journée.
Non, vous me payez pour vendre des fringues que je pourrais jamais payer avec ce que vous me payez.
Margot !
Soirée de mer, je voulais même pas venir.
Ah oui, moi non plus.
Non, mais moi j'ai un train aux aurores en plus.
Ah oui, moi aussi. Moi, 6h57.
Moi aussi, 6h57.
Qu'est-ce que tu fous? Je te cherche partout. Margot.
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 C'est moi. Moi dans 20 ans.
Elle te ressemble trop pas.
Parfois, t'es hyper terre à terre. Je te dis que cette fille, c'est moi.
Je t'imagine.
Ouais, je m'imagine des choses vraies.
Margot!
j'ai pas couché avec lui. Hein.
Que tu dis?
Non mais je vous signale que je vous entends là. Hein.
Bon, toi tu t'es fait tirer ton scooter et Margot, sa carte bleue, elle passe plus.
Oh, j'avais même pas fini de payer en plus.
Je fume. On a commencé quand?
Moi, il y a 15 ans, donc toi, dans 5.
Vous vous connaissez d'où, en fait?
De Paris.
T'es une ancienne élève?
Quoi, t'es prof? Me dis pas que t'es prof.
Relax.
Relax.
T'as couché avec Marc?
Non.
Bah, ça va venir. Tu vas rester un moment avec lui.
Est-ce qu'un Nicolas, un chauffeur de taxi, un verre au Colisée, ça te dit quelque chose?
Un chauffeur de taxi? Je peux pas souvenir.
Bon, peut-être qu'au son, la bande-annonce en dit moins qu'à l'image. À l'image, beaucoup trop de choses à mon goût sont racontées, surtout avant de découvrir le film. Pour autant, votre sentiment, vos sentiments, le premier regard, c'est celui d'Antoine Guillot sur La Belle et la Belle de Sophie Filière.
Moi, d'abord, je suis comme vous, j'aime beaucoup Sophie Filière et je n'ai pas été déçu, loin de là, par ce nouveau film. Donc, vous pouvez y aller, je pense, en confiance. Si vous aimez son cinéma, parce qu'on est toujours dans ce cinéma légèrement décalé, avec des bizarreries qui paraissent totalement naturelles. Et là, elle arrive à nous faire avaler une situation fantastique ou pas, avec une simplicité, une évidence et une capacité à ne pas appuyer là-dessus pour dire je vais vous expliquer comment ça s'est passé et pouvoir partir dans une toute autre direction simplement parce qu'elle a choisi une situation qui permet des moments à la fois étranges et très vrais. Enfin, je vous dis ça pour, je veux pas trop vous en dire, même si je pense que tout le monde qui a vu ou pas ou entendu parler de ce film sait de quoi il s'agit. Mais moi, c'est ce que j'aime beaucoup moi chez Gisèle, et c'était le cas notamment dans des films comme Eye par exemple, où Hélène Filière pouvait se faire passer pour une extraterrestre et on trouvait ça tout à fait normal.
J'adore ce film.
Et évident. Là, on a une histoire qui en plus peut se vivre différemment selon l'âge qu'on a. C'est-à-dire que on peut la raconter de deux manières différentes. Soit c'est l'histoire d'une jeune femme qui rencontre une jeune femme de 20 ans qui rencontre une quadragénaire qui a le même prénom qu'elle et qui lui ressemble étrangement, ou c'est l'histoire d'une quadragénaire qui rencontre. Non mais c'est très intéressant parce que c'est un film c'est un film qui ne se situe jamais vraiment temporellement, qui joue soit sur des attentes ou sur des regrets, sur l'angoisse d'un avenir dont on ne sait pas trop lequel il sera en fonction des décisions qu'on prend, ou celui en disant si j'avais fait ça j'aurais pu être quelqu'un d'autre, et tiens, si j'avais l'opportunité ou l'occasion de corriger des erreurs du passé. Alors, ça peut se voir aussi, et plus le film avançait, plus le côté fantastique donné à la fois dans la bande-annonce, dans les papiers et dans le film me semblait partir vers d'autres possibilités. Il me semble que c'est un film sur la projection dans tous les sens, c'est-à-dire la projection cinématographique, comment on s'incarne, comment on se reconnaît dans un personnage et comment on se projette dans quelqu'un en se disant, tiens, celui-là, je vais le modeler en disant il va éviter de faire les mêmes erreurs que moi, ou de se dire tiens, voilà quelqu'un que je pourrais devenir ou ne pas devenir. Et le tout avec ce talent pour le dialogue qui fait toujours mouche de manière très très précise et pertinente. J'ai beaucoup ri à ce film dans une salle qui était assez froide. C'était assez étrange. On était disséminés dans la salle, quelques-uns à rire dans un tempérament très froid. C'était assez de grands moments de solitude, mais avec beaucoup de solidarité avec ceux qui étaient de l'autre côté de la salle.
On connaît ses vrais amis.
Mais avec une vraie justesse sur ce qu'est le parler d'aujourd'hui, ce que sont des situations d'aujourd'hui, sans jamais être dans le lourdingue. Et dans la, voilà. Donc c'est la finesse de Sophie Filière, moi, me passionne toujours autant, et ce qui fait que voilà de la vraie bonne comédie française.
Alors, attendons d'avoir l'avis de Lucille Comeau. Non, ce qui est bien, c'est que je suis rarement d'accord avec Antoine Guillot et rarement d'accord avec Lucille Comeau, donc là, je vais essayer de faire la synthèse. Mais ça arrive, hein, dans les deux cas.
Lucille, non, mais je suis plutôt d'accord avec Antoine, c'est un film qui est vraiment très agréable
deux,
à regarder. Non, mais je ne suis pas tout à fait d'accord.
Bon.
Voilà, rassurez-vous.
Alors, non, je ne suis pas très inquiet.
Moi aussi, j'aime plutôt son cinéma, mais il faut dire que ces films me laissent toujours, au bout d'un moment, j'ai vraiment une question de temporalité, assez indifférente. Et là, de la même manière, je trouve qu'on s'installe très bien, que ça m'a beaucoup fait rire au début. Et puis, comme d'habitude, comme Un chat, un chat, comme le film dont je me souviens plus le nom avec Emmanuel Devos et Mathieu Amalric, que j'avais pourtant plutôt bien aimé.
Emmenons-nous dans les bois, non, c'est pas ça.
Mais non, mais ça se passe dans une forêt, en effet, mais ça n'a rien à voir avec la forêt, le titre, mais c'est pas grave. Donc, comme d'habitude, attention, je suis un
Antoine
petit Guillaume. Peu frustrée.
Arrête ou je continue.
Ah oui,
voilà,
arrête
exactement.
Ou je continue.
Merci. Je suis un petit peu, justement, pas frustrée, mais un peu lassée. J'ai l'impression que son cinéma se déploie bien dans des formes peut-être plus courtes qu'un long métrage. En l'occurrence, je trouve que toute la dernière partie, qui est assez démarquée, puisqu'il y a un changement de lieu, tout le petit monde que constituent les héros du film vont au ski, toute cette dernière partie perd un petit peu l'esprit de légèreté que le début a et gagne un petit peu, à l'inverse, en esprit de sérieux. Il faut dire qu'il y a quand même des jeux, même s'ils sont très fins, avec des genres assez connus dans le cinéma. Bon, il y a le côté un peu fantastique dont parlait Antoine. C'est aussi une comédie de remariage, puisqu'il y a ce personnage de Melville Poupeau, qui est donc un homme qu'avait laissé Sandrine Kiberlain et qu'elle retrouve, voilà, on va le dire comme ça, qu'elle retrouve aussi par le biais de son double jeune. Donc, et cette comédie-là du remariage, elle prend le pas, je trouve, à la fin du film, qui, du coup, s'achève un petit peu comme une comédie sentimentale plus classique que le début laissait présager. Donc, je me suis un petit peu ennuyée à la fin. Malgré tout, c'est extrêmement drôle, ça, vraiment, moi aussi, j'ai beaucoup ri. Mais, de la même manière, je trouve que le comique tient beaucoup à des toutes petites choses, des petites répliques, des petits bouts de dialogue. Et parfois, on peut se dire, il y a un côté un peu film à punchline, à bonnes phrases qui sont là pour faire bien. Et au milieu, parfois, ça pêche peut-être un petit peu. Voilà, c'est une chose très légère qui est belle par sa légèreté et qui en même temps peut-être est fragile aussi par sa légèreté.
Corinne Rondeau sur La Belle et la Belle.
Oui, c'est un film charmant. C'est un film charmant parce qu'il n'a pas vocation à être prétentieux avec son objet et qui effectivement nous place dans un fantastique réaliste et en l'occurrence ça n'a pas à avoir de démonstration. Et Sophie Filière ne cherche pas la démonstration mais au contraire, et ce que dit Antoine est très juste, c'est-à-dire que la temporalité est d'un coup elle est bloquée. Elle est bloquée entre un âge de 45 ans et un âge de 20 ans. Et donc il y a un blocage temporel à cet endroit-là et qui relève de la rencontre. De la rencontre avec tout ce que ça peut emporter de comédie. Ah mais je vais fumer, ah mais je serai prof, enfin ces choses-là. Qui relève d'une sorte de rencontre, d'un avenir supposé. Mais le film, justement, par la venue de Melville Poupeau, et c'est là-dessus je ne suis pas tout à fait d'accord avec
Lucille.
La venue de Melville Poupeau est la manière de remettre les compteurs en mouvement, c'est-à-dire de remettre du temps en marche. Et ce temps en marche, c'est la venue du choix aussi de l'aimer et d'aimer. Et en fait, se joue au-delà des remords et des regrets quelque chose d'un choix. Et que ce choix était bloqué ou justement à l'intérieur d'une projection d'avenir, où là, d'un coup, Sophie Filière enlève la projection de l'avenir pour simplement dire tout est en fait de l'ordre d'un choix. Et ce choix, en fait, vient avec un élément anecdotique. Agathe Bonitzer fait une chute. Et elle perd la mémoire. Et lorsqu'elles sont face au médecin, elle fait des tests mnémoniques. Et donc, Kimberlin lui dit « Mais enfin, c'est pas possible, tu t'en rappelles pas, elle sort les trois mots, je m'en rappelle encore. » Et là, elle dit « Ben non, je m'en rappelle pas des trois mots. » Et une séquence suit où Agathe Bonitzer rappelle Sandrine Kiberlin parce qu'elle prend un train, elles vont se quitter, et elle lui dit « Voici les trois mots. » Et les trois mots sont distincts. C'est-à-dire que là, se joue simplement une sorte de bifurcation des destins. Et justement, on peut voir le film de très tard à très tôt, c'est-à-dire me voir en perspective de ce que j'étais, et en même temps me voir en perspective de ce que je pourrais être. Mais en fait, rien dans le film ne marque que ça sera ceci ou cela pour l'une et l'autre. Et je trouve que cette manière de réintégrer la dimension masculine pour réouvrir les parenthèses temporelles est une idée assez simple, mais en même temps qui n'était pas du tout évidente. Et je trouve qu'en fait, là où il pourrait y avoir effectivement, parce que moi je me suis posé la question de cette espèce de allez, est-ce que c'est Melvi Poupeau joue-t-il en fait à redonner une dynamique au film, et puis pas du tout en fait. C'est ce moment où le passé et le futur ne veulent rien dire. C'est qu'est-ce qui se joue au présent quand on est confronté à quelque chose de notre propre vie, quoi, et que l'autre vous renvoie. Et au milieu de ces deux, ben, y a un tiers, et c'est au tiers que justement les choix s'opèrent. Donc moi je trouve qu'il y a une grande finesse, vraiment, et c'est pour ça que je dis que c'est un film charmant, parce que il est à l'endroit où il se joue et pas ailleurs. Et ça, c'est quand même d'une grande humilité et en même temps d'une grande ténacité aussi.
Boris Pinault, peut-être à la mi-temps de cette dispute, beau mi-temps plus exactement de cette dispute, quelques commentaires à faire entendre ?
Romérien, désuet, hyperlooké, mièvre et parisien, écrit Vera Shane sur Facebook.
Bon, c'est fait.
Victorien sur Twitter parle d'un scénario intelligent et jubilatoire, et un mot de Gauthier Rousse, toujours sur Twitter. Sophie Filière trace une voie trop rare dans notre cher cinéma national, réconcilier la comédie populaire et la petite chronique de l'intime.
Je suis assez d'accord avec le dernier cité, même si j'ai pas encore vu, je le rappelle, La Belle et la Belle, mais que si j'en avais déjà envie avant, maintenant encore plus. Peut-être un commentaire, Lucille Comeau, par rapport à ce que disait Corinne Rondeau. Je voulais prendre quelques notes en réaction peut-être à ses propos.
Mais elle me remet en tête la fin qui c'est vrai est plus ouverte que ce que j'avais gardé en tête. Je pense que ce qui est très ouvert aussi, et ça c'est le cas dans tous ces films, c'est que la légèreté peut toujours la réversibilité de la légèreté, c'est toujours la mélancolie, et que là, à nouveau, il y a quand même quelque chose de possiblement très sombre aussi dans ce film-là. Donc il est agréable jusqu'à un certain point où l'interprétation peut prendre des chemins un petit peu plus sombres. Moi, selon peut-être aussi ce que disait Antoine, où on se situe, si on se situe du côté de celle qui a 45 ou celle qui a 20 ans, on voit probablement pas le film de la même façon. Moi, personnellement, justement, je me suis tellement peu identifiée ni à l'une ni à l'autre
que je pense que j'étais dans une aussi...
Bah voilà, exactement. Non, mais c'est pour ça que ce que disait Antoine me paraît très juste. Je pense que c'est très important dans la manière dont on regarde le film.
Antoine Guillot ?
Je voudrais juste répondre à l'auditeur qui trouve le film romérien, etc., que ce n'est pas parce qu'un film se passe dans une grande ville qu'il est parisien, puisqu'en l'occurrence, il est majoritairement lyonnais. Ça se passe beaucoup à Lyon. Donc voilà, il faudrait revoir un peu sa géographie, cher auditeur. Moi, je trouve qu'il y a aussi des moments de grâce dans ce film qui joue sur... Il y a beaucoup de gaucherie. Il y a un moment, elle dit « Voilà, mais j'étais comme ça, j'étais molle et je ne sais plus quoi. » Et puis, il y a des moments de beauté, vraiment. Il y a une scène qui m'a beaucoup ému. J'aime beaucoup, contrairement à Lucille Comeau, les moments de ski. Et notamment une scène dans un télécabine, scène d'angoisse et de panique qui est calmée grâce à un téléphone portable qui diffuse de la musique brésilienne. Et tout d'un coup, on a quelque chose qui est très de maintenant et très émouvant par un petit moment de grâce comme ça. Et c'est ces petites touches qui justement ne s'affichent pas comme regardez, j'installe mon plan, je vais vous voir, etc.
C'est un très beau plan, cependant.
Et, oui, vous disiez tout à l'heure, il est tout très sauf beau. La prétention.
Il est très beau, sauf qu'il ne s'affiche pas comme ça. Mmh. Et c'est comme ça qu'il nous touche, justement.
Ça, c'est la filière Stutch, typiquement, ce que vous me racontez là. Moi, il me reste des choses à voir quand même. Vous avez raconté beaucoup de choses sur ce film, mais je vais quand même y aller au plus vite.
On n'a rien dit, vous verrez.
Ouais.
C'est vrai.
Peut-être que moi aussi, il faut que je tombe pour perdre momentanément la mémoire. Bon, non, je ne le souhaite pas du tout.
Non, du tout.
Non, je ne veux pas tomber. Je veux aller voir La Belle et la Belle de Sophie Filière qui est dans les salles depuis mercredi.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Le troisième sujet de cette dispute consacrée ce soir au cinéma, puisque je le rappelle, demain nous avons inversé les jours. Demain, enfin, littérature en direct en public du Salon Livre Paris. Donc cinéma ce jeudi soir exceptionnellement, nous parlons de Chien, réalisé par Samuel Benchetrit, qui adapte ici son propre livre. On y suit Jacques Blanchot, interprété par Vincent Macaigne. Au moment où sa vie bascule, sa femme le met à la porte de la maison dont il paye les lourdes traites, il va aussi perdre son travail et il subit en bon toutou.
Allez Jacques, attaque.
Non.
Attaque Jacques.
Non.
Allez, attaque.
Non.
Attaque-moi je.
Non.
Attaque-moi.
Non.
Allez Jacques, attaque.
Non, vraiment, je préférerais pas...
Get it!
Ben, au moins, là, on n'a pas le temps d'en savoir trop, hein, avec ce petit son, quasiment, à peine une évocation. Mais on va en savoir tout de suite beaucoup plus grâce à Lucille Como.
C'est un peu le revers dépressif de Didier, qui était ce film dans lequel Alain Chabat devenait le chien, littéralement, de Jean-Pierre Bacri, tout en restant avec le corps d'Alain Chabat. C'est un film qui est particulier, qu'on peut voir comme une succession de scènes, dans lequel chaque séquence, dans le fond, vient tester ce fameux dispositif initial qui est donné par le titre, hein, selon lequel un homme se métamorphose en chien, un homme dont vous l'avez dit tellement soumis qu'il se métamorphose en chien devant sa femme, devant son fils, devant son employeur, et puis devant ce personnage qui est interprété par Bully Lanners, qui s'appelle Max, qui est, je trouve, un personnage assez bien construit et impressionnant. Donc, de ce point de vue, la forme est très fermée, faut accepter ça peut-être, qui est très sûre d'elle-même, puisque chaque scène vient, en fait, confirmer l'hypothèse de départ qui est donnée dans le titre. Si on n'aime pas du tout le film, du coup, je pense qu'on peut le trouver très prétentieux de ce point de vue-là. Moi, c'est pas mon cas. J'ai trouvé que c'était plutôt un bon film, donc je trouve que c'est plutôt assez tenu. Voilà. Et sur le fond, j'étais assez prise par l'intrigue. Très simplement, une intrigue qui a un côté kafkaïen. Moi, j'ai immédiatement pensé à la métamorphose, parce que ce personnage qui se retrouve entre guillemets dans la peau d'un chien, ça me fait penser au cloporte. Au cloporte de Kafka. Ça va aussi assez loin, comme le roman, dans l'absurde, avec tout ce que l'absurde a de comique. J'ai beaucoup ri aussi devant ce film-là. J'étais pour le coup très seule à rire. Donc j'imagine que mes camarades n'ont pas ri, on va voir.
Vous n'en savez rien, seule. Encore.
Oui, vu la tête d'Antoine.
Et de
donc,
Corinne.
Donc assez comique. Le comique fonctionne à mon avis assez bien, et le volet cruel de l'absurdité fonctionne aussi, je trouve, très bien. Moi, j'ai été vraiment impressionnée par ce film, et notamment par le final qui, encore une fois, ferme tout à fait le film et ne laisse aucun doute sur les intentions de son auteur, mais a une forme d'efficacité de ce point de vue-là.
Bien, alors, à savoir si vous aviez raison ou tort. Corinne Rondeau, votre premier sentiment sur Chien de Samuel Benchetrit.
Écoutez, Lucille a préparé le terrain. Non, je pense que c'est un film aussi sot qu'il est prétentieux. Je trouve qu'il est ringard dans sa photographie. Cette manière de vouloir faire une image désaffectée d'une situation elle-même fantastico-politico, sur la question de la servitude, d'une certaine manière, du dressage aussi, avec l'anecdote, la séquence où le dresseur de chien... présente un chihuahua que va acheter Macken et qui s'appelle Hitler. Et donc là, on a tout compris d'une certaine manière. Ça renvoie à l'incorporation des ordres, des mots d'ordre. Et à côté de ça, vous avez la bonne patte, McCain, qui relève d'un personnage doux, pacifique. Et en fait, ce film a une prétention, parce qu'en fait, il veut nous faire croire qu'il y a des idées très très profondes derrière les images et les situations. Alors que je trouve que c'est un film vraiment d'un creux, mais gigantesque. Moi, vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment, en termes cinématographiques, j'ai trouvé ça d'une pauvreté, mais colossale. Parce que si le film ne doit reposer que sur le jeu d'un homme qui devient un chien, et donc ce chien, qui, de gentil, se fait avoir par à peu près tout le monde, c'est-à-dire, vous savez, c'est quasiment un job, ce personnage, hein. On lui enlève tout, on lui prend tout, et alors, dans la vie aujourd'hui, vous voyez le miroir de la vie sociale aujourd'hui, il y a des gens qui ont prend tout, et on fait pas attention à eux, effectivement, on fait plus attention à des animaux dans la rue, ou je ne sais quoi. Si c'est le propos du film, c'est, mais qu'il fasse autre chose, quoi, vous voyez? Parce que moi, je trouve que c'est, Oui, c'est vraiment quelque chose qui se prétend être plus profond que ça ne l'est. Et je tout repose justement sur cet acteur de Macken, que je n'aime pas du tout, même s'il joue très bien son rôle de assis debout couché, hein. Mais voilà, ça relève de l'obéissance à l'égard même d'un metteur en scène, enfin, si ça en est un.
Alors peut-être quelques remarques au fur et à mesure de Lucille Como.
Non, mais je l'ai retrouvé en défenseur, alors que bon, je vois très bien ce que veut dire Corinne. En revanche, je suis pas du tout sûre qu'il faille y voir. Enfin, je crois pas que le film appelle une réflexion ni politique ni sociale sur la servitude. Moi, je pense que justement, ce qu'on peut reprocher au film, c'est d'être purement une forme et d'être du coup très artificielle sur la question dominant-dominé. Et extrêmement esthétisant dans la manière dont il choisit ses décors, dans la mise en scène, même dans la manière dont il a choisi ses acteurs. Je pense que justement, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'être une sorte de petite chose toute ronde, sans lien aucun avec le monde d'aujourd'hui, ni question sociale, ni question politique. Mais en revanche, je suis pas sûre qu'on puisse lui reprocher la bêtise de son propos, parce que je pense que justement, le problème, c'est le propos. Oui, bon, la sottise.
Antoine Guillot, chien.
Je ne sais pas comment vous faites, Lucille, pour ne pas voir les prétentions à une réflexion
sur le déclassement
politique, la soumission et le sous-prolétariat. Mais enfin, c'est tellement surligné que c'est un peu difficile. Non, c'est vrai que c'est l'exact contraire du film de Sophie Filière dont on vient parler. C'est-à-dire que là où il y avait de l'intelligence, de la finesse, de la grâce et de l'élégance, là on est dans la balourdise, dans le pathos, dans l'affichage du regarder comme on plan est long et regardez comme je l'ai soigneusement composé, le tout dans un univers qu'on connaît quand même déjà très bien, parce que c'est celui d'Ekerven et de Lépine qui avait repris le cinéma de Coris Maquis. On sent qu'il veut s'inscrire dedans, c'est pas pour rien qu'il a bouli la Nerse dedans, c'est pas pour rien qu'on a les mêmes zones périurbaines, etc. Sauf que le film est extrêmement laborieux. Ça se traîne dans ce qui va arriver. On se dit alors jusqu'où vont-ils avilir ce personnage de Vincent Macken. Je préfère Jennifer Jones quand elle se traîne à la botte de Gregory Peck. Ça, c'est de la vraie dégradation. Là, c'est gentil, puis ça avance. Puis, quand même, il y a un moment, il finit par s'énerver un petit peu, mais c'est pour être le bon toutou qu'il est. Le film est extrêmement programmatique. C'est-à-dire qu'on voit très bien où il veut aller. Il dit tout à fait son propos. On va faire durer les scènes pour le moment où il est dressé dans la forêt, il va devoir courir à quatre pattes pour chercher un bâton, donc il peine, on sent que Vincent Macken peine, donc Ben Chetrit est content de nous le montrer en train de peiner, parce qu'on est censé peiner avec lui, et on est juste très peiné d'être en train de regarder ce film qui se déroule sans nous, en fait, qui n'a pas besoin de nous, et qui se déroule dans son programme, il va jusqu'au bout, tranquillement, comme un petit bateau.
Bon, sur le programme, c'est ce que disait Lucille Comeau, hein, c'est un film rond qui selon vous, Lucille, ne propose pas autre chose que effectivement, le programme qu'il donne d'entrée.
Oui, alors là où je ne suis pas d'accord avec Antoine, c'est que ce n'est pas précisément, à mon avis, pas du tout le contraire du film de Sophie Filière. C'est justement un petit peu la même chose dans la mesure où on se choisit une sorte de dispositif qui est contraignant. Et après, la manière dont ils l'utilisent est totalement différente,
je suis
d'accord.
Sophie Filière sort tout de suite de son dispositif
voilà,
de départ.
Voilà, exactement. Mais elle n'est pas là pour dire « je vais exploiter jusqu'au bout ». C'est intéressant de comparer les deux.
Mais parce non, précisément, que... c'est donc le contraire.
Et aussi, encore une fois, je suis pas certaine que le film appelle une réflexion qui soit d'une quelconque réflexion sur notre monde. Vous parliez de milieu, le milieu dont il est question, qui est cette espèce de... On ne sait même pas si c'est en France, hein, Belgique, périurbaine.
On est dans la fable universelle, attention.
C'est pas le sous-prolétariat de rien du tout. C'est plutôt au contraire un milieu assez bourgeois. Si on regarde la manière dont vivent les personnages de la famille de Vincent Macken, donc joué par Vanessa Paradis et son fils, c'est pas des lieux très définis, justement, je trouve, sociologiquement. Et donc, l'accroche là-dessus, à mon avis, c'est pas une accroche qui est satisfaisante pour interpréter le film. Après, je suis pas sûre qu'il y ait d'autres accroches satisfaisantes pour l'interpréter. Mais en tout cas, je suis pas sûre que ce procès-là, on puisse vraiment lui faire.
Je pense qu'effectivement, alors je vais essayer de dire des choses positives, hein, Lucille Comeau, pour vous soutenir un peu. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il est tout à fait déconnecté de quelque réel que ce soit. Parce que vous parlez de la maison, il est évident que cette maison n'est pas du tout dans les moyens... du petit vendeur d'un magasin perdu qu'interprète au début du film Vincent Macken. Donc bon, c'est posé comme ça, c'est une binaille très luxueuse. Alors certes, c'est sa femme qui a l'argent, enfin bon, ce sont des explications qui vont pas loin. C'est plutôt qu'Ekerven et Delépine rencontrent Ulrich Seidel pour le côté formaliste, hein. Cette volonté de cinéma autrichien très froid, en plan fixe, hein. Vous voyez de quoi je parle.
Ils n'ont pas le même chef opérateur.
Ils n'ont pas le même chef opérateur. Didier, pour faire référence au film de Chabat avec Jean-Pierre Bacri, Didier SM, aussi, oui, mais alors peut-être pas assez poussé. Non, vous voyez pas ?
Didier SM ?
Oui, Didier, vous voyez le film avec
oui,
Alain
oui.
Chabat ?
Parfaitement.
Le celui-là, il est plus SM que le Didier, quoi.
SM pour sadomasochiste.
D'accord, c'est bien ça.
Ah, pardon, oui, bah oui, quand même, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Hein. Fais-moi mal, oui, j'ai envie que tu me fasses mal, mais non, je ne vais pas te faire mal, etc. Non, la chose qui me peine vraiment, c'est qu'il ait appelé son personnage Blanchot. Donc ça m'a vraiment fait très très mal, et ça continue à me faire mal, parce que rien n'est innocent oui. chez Samuel Belchetrit. Qui quand même se rengorge de citations, de connaissances, etc. Ça, c'est un tout petit peu perturbant. Et je pourrais dire, alors pour vraiment aller me forcer à vous soutenir, Lucille Comeau, qu'au début, pourquoi pas, ça peut commencer, mais là, je continuerai comme vous, et sans doute bien avant que celui de Sophie Filière ne s'essouffle, je trouve que le film de Samuel Belchetrit passe difficilement le premier quart d'heure, et qu'après, vraiment, on est quand même dans un parcours fléché un peu pénible. Et en fait, moi, ça m'a plutôt ennuyé, plus qu'irrité ou plus que contrarié. J'ai eu du mal à aller jusqu'au bout, plutôt. C'était plutôt ça, mon sentiment. Antoine Guillaume ?
Oui, tout à fait. J'ai en profité pour botter en touche, parce que si vous voulez voir une fable politique essentielle d'aujourd'hui, il faut aller voir Avant que nous disparaissions, de Kyoshi Kurosawa, qui est sorti mercredi.
Oui, il y a des réserves.
Une vraie expérience philosophique assez passionnante. Moi,
oui, sauf que de la même façon, puisqu'on fait un aparté, hein, lui aussi, il a du mal à conclure son point de départ. Bon, on fait une mini-dispute sur Kyoshi Kurosawa.
On peut y aller, parce que moi non plus, j'ai pas trouvé ça bien.
C'est vrai ? Dès le départ, vous, Lucille ?
Non ? Oui, moi, alors là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment des séquences qui sont alignées les unes après les autres et qui n'évoluent pas vers grand-chose. Ça ne m'a pas donné beaucoup matière à penser, en tout cas.
Bon, vous permettez qu'on revienne un instant sur Chien avec Boris Pinault. Il y a peut-être quelques commentaires positifs pour aider Lucille Comeau. Non, le sourcil qui se lève, ce n'est pas bon signe, ça.
Je comptais finir par une note positive.
Ah ouais, finissez par une note positive, alors.
Donc, je commence avec Violette Villard sur Facebook. Belchetrit continue ses grises variations sur la vulnérabilité de l'homme, l'isolement et les monstres engendrés par la solitude. Le film est tout de face lourd, démonstratif et pléonastique. Seuls Bully Lanners et McCagne tirent leur hausse du jeu en s'y sacrifiant avec grâce. Vera Shain écrit sur des personnages totalement déréalisés, aux conduites complètement absurdes, mais pas le saugrenu roboratif et profondément cinématographique d'un Quentin Dupieux. Ce chien fige McCain dans un seul ressort de jeu, la mimique
loin, oui.
de l'idiot innocent.
On
bref.
Est loin de plein de trucs. Enfin, je sais pas,
Quentin Dupieux, voilà. Il a un génie.
On peut citer des gens et dire qu'on est loin.
Bon, pardon, on a presque pas entendu la fin.
Je termine avec la note positive.
Ah, c'est ça. Voilà.
La note positive, c'est celle de Nassim sur Twitter, qui parle d'une tragicomédie portée par un Vincent McCagne en grande forme, drôle, touchant, pathétique, humain et canin.
Bon, mais il a ses fans, Vincent McCagne, qu'est-ce que vous voulez. Vous êtes fan, vous, Lucille Comeau, Vincent
McCagne ? Non, pas particulièrement. Non. En plus, hein, pour le coup, c'est pas ça qui a soutenu mon attention.
Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Corinne Rondeau, on vous entend soupirer.
Ah oui, non. Pour moi, c'est vraiment... c'est pas possible, quoi.
Ouais, bon.
C'est vraiment pas possible.
Pas possible, ce sera le mot de la fin concernant Chien.
Et je reste calme.
Oui,
je me suis tenue.
Vous pouvez pas vous énerver tous les soirs non plus.
C'est pas possible.
Bon, c'est pas possible. Avant que nous disparaissions, on le fait en 1 minute 30, vous voulez pas le film de Kyoshi Kurosawa ? Non, pourquoi ? Ça vous a désespéré, Lucille Comeau ?
Non, alors j'aime pas particulièrement les films de Kyoshi Kurosawa.
Moi, beaucoup,
et là,
moi.
Je trouve quand même que ça se répète beaucoup et que pour le coup, tout est très donné dès le départ et que ça évolue assez peu. Enfin. On va pas raconter l'histoire parce que pour le coup, si on raconte le début, on raconte tout le film et ça n'a vraiment plus aucun intérêt.
On n'a pas vu la bande. Moi, j'ai pas vu la bande annonce. J'espère qu'elle raconte pas tout parce qu'il y a beaucoup de bizarrerie dans ce film.
Je l'ai pas vu non plus. Moi, j'adore ce film justement parce qu'il est très bizarre. Il part dans des sens qui vraiment me stupéfient et surtout montre une humanité qui désire sa propre disparition. Je trouve que c'est un portrait très noir, très brillant en même temps de l'humanité d'aujourd'hui. Je trouve. Très très pertinent politiquement parlant, enfin, et c'est d'une vraie expérience philosophique en plus de se demander qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce qui fait qu'on est homme ou pas, qui moi me passionne totalement. Ce que je trouve très étonnant, c'est qu'à Berlin, il y a le même film fait par Kyoshi Kurosawa qui raconte la même histoire, mais c'est un autre film. Voilà, donc il y a un bégaiement dans la cinématographie de Kyoshi Kurosawa qui est très curieux.
Bah, il bégaye souvent, mais moi j'aime bien ces bégaiements. Vous ne l'avez pas encore vu, hein, Corinne, ce film, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait participer à cette mini dispute.
Non, mais Belchetrit, il ne faut pas aller le voir.
Bon, ben on va terminer là-dessus et Kyoshi Kurosawa, nos avis sont partagés. Bon, moi j'ai pris quand même plaisir parce que pour le coup, moi je l'aime vraiment beaucoup, Kurosawa. Cette fois-ci, on va entendre le bon jingle du jeu. Me Mais j'aime bien qu'on l'entende deux fois, en fait. On va peut-être le passer deux fois tous les soirs. Et puis les auditeurs sont là, cherchent un papier, un stylo pour noter la question et pour pouvoir peut-être gagner des choses. Hier, qu'est-ce qu'on faisait gagner, Camille André, qui nous rappelle toujours la question et nous donne la réponse?
Alors, on faisait gagner justement des places pour le film de Kurosawa.
Ah ben voilà.
Et la question était, par quelle compagnie théâtrale fut créée la pièce « Avant que nous disparaissions » dont le film de Kurosawa est l'adaptation cinématographique?
Et la réponse est?
La compagnie Ikkyume.
Très bien dit. Ce soir, des places de cinéma à gagner pour la rétrospective Wim Wenders, 6 films en version restaurée en salle. J'ai pas la liste des 6, parce que tout dépend avec lui, hein. Ça dépend quelle époque.
C'est plutôt les premiers, c'est plutôt les meilleurs, on dira. Voilà.
Faux Mouvement, qui est un chef-d'œuvre absolu. Bon, alors si c'est cela, donnez la question, Camille.
Dans quel célèbre film de Wim Wenders peut-on voir Bruno Ganz tomber littéralement amoureux d'une trapéziste?
Ouais, c'était le début de la fin, ça, pour Wenders. Bon, bah, votre réponse avec vos ça coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter l'émission et bien sûr vous abonner au podcast. On va parler de demain, mais on va parler aussi d'après-demain. Parce qu'après-demain, c'est samedi et samedi, on écoute Plan Large d'Antoine Guillot, moment promo.
Et on sera en direct du Salon du Livre. Venez nombreux si vous êtes parisiens à 14h, donc au Salon du Livre. Et on parlera à nouveau de Duel au Soleil, puisque Pierre Berthomieux viendra parler du livre. C'est vraiment pas un livret, c'est un vrai livre qu'il a consacré. Et Louis-Stéphane Ulysse, de son livre à lui, Une histoire du western, rien que ça, en deux gros volumes, un pour les cow-boys et un pour les indiens.
Formidable. Demain, nous, on sera en direct aussi du Salon du Livre, demain vendredi, pour parler de littérature avec vous, Lucille Comeau, mais aussi avec Raphaël Léris et Florent Georgescu. On parlera de l'archipel des Solovki de Zakhar Prilépine, des guerres perdues de Youri Belaïev de Pierre Sautreuil et des jours d'une stupéfiante clarté d'Aaron Appelfeld.